Alors, c'est fin juin ou début juillet. J'avais apporté un premier message, c'était sur les vacances. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Oui.
Je pourrais peut-être demander à Vito de nous faire un résumé. Tu étais là, non?
Non, mais là, j'étais en vacances.
Ah.
J'ai bien pratiqué ton message. J'étais prophétique.
Ok.
Pardon.
Non, il n'y a pas de souci. Soyons dans la joie.
Yes.
Alors, tout était parti d'un poster que j'avais vu dans une salle d'attente chez un kiné. C'était une affiche d'un centre hospitalier de Liège qui donnait des conseils pour avoir une vie sereine, équilibrée. Et quand j'ai lu cette affiche, ça fait vraiment tilt à maintes égards. Et je m'étais basé sur quelques conseils qui étaient affichés. Est-ce que, justement, pour nous permettre quelque part d'avoir de bonnes vacances, mais surtout pour qu'elles ne soient pas gâchées, est-ce que quelqu'un se souvient juste de quelques conseils qui figuraient sur ce poster? Éviter les personnes négatives. Ouais, c'est vrai que c'était assez tranchant, ça. C'était sur cette fiche. Éviter les personnes négatives. Même, je sens même un peu de jugement là-dedans, enfin, c'est un peu fort, mais c'est ce qui était écrit. Et ça vient d'un centre hospitalier. Écouter de la musique, tout à fait, écouter de la musique. Ouais. Quoi encore? Bon, ça remonte à 2 mois, je sais. Avoir à veiller... Manger du chocolat, non, ça c'est mon conseil personnel. Non. Mais effectivement, veiller à une bonne qualité de sommeil. Ça y a figuré aussi. D'ailleurs, je crois que tu n'étais même pas là.
Non, je n'étais pas là.
D'accord, mais c'est juste. Il a peut-être lu l'affiche dans la salle d'attente comme moi. Ah, elle souffle, ok. Oui, c'est-à-dire faire d'exercice physique. Oui. Et ils allaient plus loin en disant s'exposer à la lumière. Donc ne pas rester enfermé chez soi, s'exposer à la lumière, s'exposer au soleil. Tout à fait. Éviter aussi les pensées négatives. Éviter les pensées négatives. Et je crois qu'on a un peu tout dit. Mais moi, je ne vous ai pas tout dit. Ah, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi. Alors, moi, je vous avais dit la chose suivante. Donc, j'avais énuméré ces conseils. Et j'étais allé un peu plus loin. Je les avais un peu développés ou éclairés avec une perspective chrétienne. Parce que ces conseils-là, ils sont issus d'une pensée humaniste. Et moi, je crois que l'humanisme a des facettes intéressantes, vu que l'humanisme cherche le bien de l'homme. Donc ça, c'est intéressant. La Bible nous dit « examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Donc moi, je dis, à titre personnel, que dans le meilleur des cas, l'humanisme nous apporte de bonnes choses, mais qui sont incomplètes. Parce qu'il manque toute cette dimension de Dieu, toute cette dimension spirituelle que j'avais essayé un peu d'apporter en développant ces conseils. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, et ça va plus loin. Dans le meilleur des cas, mais aussi dans le pire des cas, l'humanisme nous donne des conseils qui nous dévient, peuvent nous faire aussi dévier du bon chemin. Donc là, je vais vous en lire un. Et là, j'étais un peu comme Paul quand j'ai lu ce conseil qui figure sur ce poster. J'étais un peu irrité dans mon esprit. Donc, autre conseil du CHU de Liège pour gagner en sérénité. Je cite, pratiquer la relaxation. Ça devrait pas nous étonner. Pratiquer le yoga et pratiquer l'auto-hypnose. Waouh. Et là, je me dis, ok, un centre hospitalier. Voilà, on parle quand même du domaine médical qui donne ce genre de conseils. Et dans ce message que je voudrais vous apporter aujourd'hui, je voudrais quelque part être un peu plus offensif. Parce que dans le message que vous avez donné début juillet plutôt, là on était plutôt dans des stratégies défensives pour que nos vacances ne soient pas gâchées. Donc quelque part, c'était aussi un peu pour notre propre confort personnel. Mais là, je pense que parfois, il faut aussi être offensif. Pourquoi? Non seulement pour nous, mais aussi et surtout pour les autres qui sont encore captifs de systèmes de pensée qui vont à l'encontre de Dieu. Et là, je crois qu'on a chacun, chacune ici, notre part à faire. Et là, je voudrais juste vous présenter une double stratégie basique, mais qui me semble importante à rappeler, que Paul a utilisée, que Paul a énoncée lui-même pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ gagne du terrain. Parce que c'est bien ça, notre appel. La bonne nouvelle de Jésus-Christ doit gagner du terrain. Et ça se fait quand on mène une bataille, quand on veut gagner du terrain, quand on veut être offensif, ben il faut une stratégie. Et donc lui, il avait, en tout cas d'après ce que moi j'ai constaté, une double stratégie. La première, et elle me semble évidente, c'est ce que j'appellerais la stratégie d'action. L'action de Dieu, et donc c'est cette puissance de Dieu qui confond les sages, qui confirme le message de l'évangile. Et on est quand même dans une société qui est quand même fortement athée. Et les gens, ils ont besoin de voir pour croire. Beaucoup de gens, en tout cas, c'est une réalité. Et ils ont besoin de preuves. Et c'est Luc qui me disait un jour, et je le rejoins, il disait que en France, le réveil viendra surtout par les miracles. C'est ce que tu m'avais dit ? Surtout, peut-être pas exclusivement, mais... Et je crois aussi que c'est vrai. Il y a un passage dans la parole qui parle des derniers jours. Il dit qu'il y aura des temps difficiles, donc je ne vais pas énumérer toutes les caractéristiques propres à l'homme charnel. Mais il y en a deux, trois que je voudrais relever. On aura affaire à des hommes qui seront enflés d'orgueil, qui aimeront le plaisir plus que Dieu, je pense qu'on est dedans, qui auront l'apparence de la piété, mais qui vont renier ce qui en fait la force. Qui auront l'apparence de la foi, qui se diront chrétiens, catholiques, protestants, mais qui vont renier ce qui fait la force, la substance même de notre foi. Et là, on peut l'interpréter, je pense, de différentes manières. Qu'est-ce que ça veut dire, la force de notre foi ? Ça mériterait tout un développement. Mais moi, je crois que dans cette force, on peut aussi le voir d'une manière littérale. Il y a le côté puissance, puissance de la foi, puissance du salut. Et il y en a donc qui prennent juste la coquille, mais il n'y a rien à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un phénomène tout à fait naturel. Vous avez des personnes, dont aussi des personnes qui se disent chrétiens, chrétiennes, qui vont chercher cette force, cette puissance, cette substance, ils vont la chercher dans d'autres religions. C'est une réalité, et notamment dans ce qu'on appelle le Nouvel Âge, le New Age, qui est une sorte de supermarché des religions, où on prend un peu ce qui nous intéresse, et surtout où on tente d'expérimenter des choses aussi au niveau spirituel. Dernièrement, j'étais chez Thomas et Marion. Et là, ils m'ont rendu attentif à une publicité, je crois, que ton frère avait reçue, que j'avais reçue aussi il y a quelques années dans ma boîte aux lettres. C'était un voyant marabout qui disait, voilà, vous pouvez m'appeler, et si vous avez des problèmes de cœur, même les problèmes les plus désespérés, résultat garanti sous 3 jours, la personne reviendra, vous avez des problèmes de finances, ainsi de suite. Ça devrait quand même nous interroger. On est entouré de cela. À petite dose, parfois à forte dose, mais on est littéralement entouré de cela. Soit à la télé, que ce soit voilà, dans les films de cinéma que nos jeunes aiment beaucoup, vous avez, et c'est subtil, des éléments de bouddhisme, de religion asiatique, du New Age. Je serai plus précis là-dessus ultérieurement, mais je n'irai pas dans les détails aujourd'hui. Donc, juste quelques exemples célèbre qui montre la puissance de Dieu à l'œuvre à travers Paul. Donc c'est cette stratégie d'action qui nous permet de gagner du terrain pour Jésus-Christ, c'est-à-dire de gagner des âmes pour Christ. Donc déjà, à un moment donné aussi, Paul a eu une rencontre avec un homme politique, on va dire, le proconsul Sergius Paulus, et ce dernier était accompagné, était conseillé par un magicien. D'accord ? Donc de nos jours, on mettrait d'autres étiquettes. Mais sachez que nos hommes politiques, certains aussi, sont entourés de personnes qui ont un profil similaire. C'est une réalité, certains ne s'en cachent pas. Donc, Elias le magicien faisait opposition parce que le proconsul, il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il avait ce désir. La soif, elle est là chez les gens. Mais le magicien, il faisait opposition et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive de manière subtile. Et là, j'aime bien. Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Moi, j'aime bien ce détail. Il fixa les regards sur lui. On a besoin d'une église qui fixe les regards sur aussi les personnes parfois qui sont là aussi et qui cherchent à détourner. Donc c'est un regard d'autorité, un regard de conviction, un regard d'identité. Je crois qu'on est appelé aussi à avoir ce type de regard. Et donc, il dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, quand cesseras-tu de pervertir les ordres du Seigneur ? Voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » J'aime bien la réaction du proconsul. Voyant ce qui était arrivé, il crut. Et là, il est dit, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il a été frappé de la doctrine du Seigneur. Ben, il a été frappé, parce que voilà, son conseil a été frappé. Mais il a été frappé de la doctrine du Seigneur. Parce que, donc, il a entendu la parole de Dieu, mais il l'a vu en action. Il a été frappé de la doctrine. Pourquoi ? À mon avis aussi, parce qu'il a vu que c'était accompagné de faits et que ce n'était pas, comme à l'époque, des choses théoriques qui restaient un peu en l'air. C'était concret. Autre exemple aussi qui m'a fait réfléchir parce que cette double stratégie de Paul, donc là je parle de la première stratégie d'action, elle n'a pas toujours, loin de là, 100% de réussite. Et ça devrait aussi nous enlever de la pression. Parfois, on n'aura pas toujours 100% de réussite, comme Paul. Donc si lui n'a pas eu 100% de réussite, ça peut nous arriver et ce n'est pas grave. L'important c'est toujours de se relever. Donc là quand ils étaient à Icône, ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendaient témoignage à la parole de sa grâce et permettaient qu'il suive par leurs mains des prodiges et des miracles. Regardez la réaction de la population se divisa. Les uns étaient pour les juifs, les autres pour les apôtres. Et ils voyaient des miracles et des signes devant leurs yeux. Et il y en a qui, malgré tout, ne croyaient pas. Ça fait quand même aussi réfléchir. Ensuite, ils ont annoncé la bonne nouvelle à Lystre. Il y avait un homme donc, qui a des problèmes au niveau des pieds, boiteux de naissance. Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il fixe les regards sur lui. Il fixe les regards sur lui. Et là, je ne pense pas que c'était un regard de méchanceté. Enfin, regard de méchanceté. Non, mais un regard comme ça, ferme, comme il l'a fait vis-à-vis du magicien. Mais peut-être c'est un regard de compassion. En tout cas, ce qui est clair, il fixe les regards sur lui. Et il dit, lève-toi. À la vue de, c'est ça, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Vous avez comme exemple encore le gardien de prison aussi. Donc Paul et Silas qui louent le Seigneur. Il y a tout qui tremble, d'accord ? Les fondements de la prison, tout qui tremble. Et le gardien de prison, tout de suite. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Il avait peut-être entendu l'évangile. En tout cas, il avait entendu les louanges. Parce que même les prisonniers entendaient les louanges de Paul et de Silas. Peut-être qu'il même qui chantait l'évangile d'une certaine manière, on ne sait pas. Que faut-il que dois-je faire pour être sauvé ? Parole plus action, ça donnait du résultat. Mais je crois que cette stratégie d'action, elle doit être accompagnée aussi d'une autre stratégie. Sachant que ces deux stratégies, ouais, elles vont de pair. Parfois c'est l'une, parfois c'est l'autre, parfois c'est les deux en même temps. Et cette autre stratégie utilisée par Paul, c'est ce que j'appellerais moi personnellement la stratégie de persuasion. Stratégie d'action, stratégie de persuasion. Pour moi, ce n'est pas seulement l'une, pas seulement l'autre. C'est les deux conjugués. Et moi, j'avais assisté une fois à une scène suivante. C'était un serviteur de Dieu qui évolue comme ça dans les miracles, signes et prodiges. Et j'ai assisté à l'une de ces réunions. Et il priait pour les gens. À un moment donné, il a prié pour une dame d'origine musulmane. Et cette dame, à un moment donné, je ne sais pas si elle était touchée, mais devant tout le monde, elle commence à lui parler du prophète Mahomet. Et là, je me suis dit, comment il va réagir ? Comment il va réagir ? Et j'étais vraiment impressionné par la qualité de la réponse qu'il lui a apportée. Il a commencé à avoir un dialogue avec elle et il connaissait très bien le prophète Mahomet. Et il a commencé à dialoguer, à argumenter, ça ne s'est pas éternisé. Mais je me dis, s'il ne l'avait pas fait, est-ce que voilà, il aurait dû dire, mais arrête avec tes choses démoniaques. Est-ce que quelque part, cette femme, elle était peut-être déjà ouverte, il y avait quelque chose qui s'était passé, mais il y avait encore, bien sûr, elle était au début du chemin. Et vous savez que surtout dans la religion musulmane, il y a aussi un côté affectif, parce qu'il y a un côté familial. Et moi, je crois que c'est parfois dangereux de venir avec ses gros sabots, d'écraser ça en deux secondes, laisse tomber tout ça, viens maintenant, c'est démoniaque. Je pense qu'on peut faire beaucoup de dégâts. Et je pense que parfois, il y a une sorte de stratégie, envie de dire, de transition, il faut y aller avec douceur. Et ça nécessite quand même aussi une certaine dose de tact et aussi de connaissance, pour ne pas dire n'importe quoi. Et là, je prendrai après un exemple très concret avec Paul. Donc, stratégie de persuasion, et moi, ça m'a même fait réfléchir. Et je vais vous donner de nouveau quelques exemples. Donc là, on avait, par exemple, je m'appuie beaucoup sur le livre des Actes. Hein. Paul discourait dans la synagogue, chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Ensuite, Paul entra dans la synagogue pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le règne de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Pendant 3 mois. Il est même allé dans une école, c'est la rentrée scolaire là, demain. Il enseigna pendant 2 ans dans une école. Donc il était quelque part, voilà, un peu à l'image des autres enseignants d'époque, il était aussi dans les discours, dans l'argumentation, et c'était quand même très fort. Et à un moment donné aussi, il est dit, c'est dans Romains 15, c'est Paul qui dit qu'il veut seulement mentionner ce que Christ a fait à travers lui. Et il dit, je veux seulement mentionner ce que Christ a fait à travers moi, en parole et en acte. En parole et en acte. Ce que Christ a fait à travers moi. Et je crois qu'il faut absolument être équipé dans les deux. Et je vais peut-être pas encore donner d'autres exemples, parce que voilà, ce temps de prière qu'on va avoir après, il va être important. Mais laissez-moi encore vous donner un dernier exemple. C'est à la fin du livre des Actes. C'est quand Paul a convoqué les principaux des Juifs. Et c'est eux qui disent aussi, nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses. Et ça, c'est l'idéal. C'est lorsque les personnes viennent vous poser des questions. Lorsque, par votre témoignage de vie, vous intriguez les personnes. Parce que là aussi, on peut faire des dégâts. Un jour, j'ai travaillé dans une école privée sous contrat qui n'était pas absolument pas chrétienne. Et j'ai un jour capté la conversation d'une collègue qui disait « Ah, mais cette maman, qu'est-ce qu'elle me bassine avec son église évangélique ?» Pour moi, ce n'était pas un bon témoignage. Donc bien sûr, ça veut dire qu'on est appelé à se taire. Mais faire preuve de tact et idéalement toujours susciter la curiosité des gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas annoncer l'évangile. Et là, donc, il lui fixait un jour, donc ils sont retrouvés avec ses principaux des Juifs. Et regardez, écoutez bien. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage. Ça, c'est intéressant. Donner témoignage, rendre témoignage de ce qu'on a vécu. Et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, en s'appuyant sur les Écritures, à les persuader en ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Toute la journée, il a essayé de les persuader. Les uns furent persuadés, les autres ne crurent point. Et moi, une question que je me suis posée, mais je me suis dit, mais ils étaient là, mais on ne sait pas trop, Jésus, est-ce que c'est vrai ou pas? Je vous avoue, j'ai eu la pensée suivante, mais pourquoi Paul, à un moment donné, il n'a pas dit, bon allez, j'arrête les discours, je vais vous montrer, est-ce que quelqu'un a un problème de santé, ou je vais prier pour des miracles, signes et prodiges. Il a peut-être fait, en tout cas là, ce n'est pas mentionné. Mais ça montre quand même, et Paul était rempli d'esprit, que c'est, en tout cas au minimum, un terrain sur lequel on doit être quand même un tout petit peu opérationnel. Le terrain de la persuasion. D'ailleurs, que nous dit la parole? Elle nous dit, là il est question d'évêques, il est dit que tous les évêques soient capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. ils doivent en être capables. Donc quelque part, ça demande un minimum de connaissances. C'est pas comme ça que ça vient. Et mais après, on peut se dire, oui, vous parlez là d'évêques, c'est réservé à des spécialistes. Non. Déjà, on nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi ? Est utile pour enseigner, ok, mais pour convaincre. Hein, et pour corriger. La parole de Dieu, elle nous a été donnée pour qu'on puisse convaincre et pour corriger. Donc, il y a quand même aussi une dimension intellectuelle qui est là. Que nous dit 2 Timothée 2:24 ? Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Donc ça devrait nous parler, un serviteur, une servante. Il doit au contraire être propre à enseigner, doué de patience, et l'écoutez bien. Il doit redresser ses adversaires avec douceur. Avec douceur. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Là aussi, ça m'a fait réfléchir. Dans l'espérance que Dieu donnera la repentance. Donc on est aussi en collaboration, bien sûr, avec Dieu et avec son esprit. Qu'est-ce que Paul dit justement à Timothée ? Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure, avec toute douceur. Ah, avec toute douceur, deux fois déjà. Là, je pense à Internet. Parfois, quand on voit des messages sur Facebook, des réactions sur Facebook, moi, je trouve à titre personnel que parfois, on pourrait avoir un peu plus de douceur et de respect. Moi, je me souviens un jour quand j'étais même pas jeune converti, je commençais à assister à des parcours alpha et moi, je suis quelqu'un d'entier. Quand j'avais une question qui me trottait, elle me trottait vraiment. Donc, moi, je demandais au formateur des réponses. Et là, je ne sais pas pourquoi j'avais ça. Ça peut paraître ridicule, mais je faisais une fixation sur les dinosaures. Ah ouais, non, mais il y avait quelque chose. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloquait. Et je lui parle de ça, mais ça me travaillait. Et jeune étudiant, et il y a une fille à côté qui s'était aussi adressée à ce formateur. Et elle était déjà convertie, et elle lui parlait de problèmes entre dénominations, ménonites, tout ça. Donc moi, là, ça me passait au-dessus. Mais c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas, je lui ai juste parlé de mathématiques, et elle se tourne vers moi, elle m'a dit, mais en substance, hein, mais qu'est-ce qu'on s'en moque de ça ? Qu'est-ce qu'on s'en moque de ce que tu racontes ? C'est pas important. Et moi, ça m'a blessé. Et c'est pour ça que lorsque... Peut-être dans votre entourage, vous avez des personnes qui ont d'autres interrogations qui peuvent être subtiles, enfin qui peuvent être peu importantes pour vous, ou qui ont d'autres considérations religieuses. Est-ce que c'est comme ça qu'on va leur répondre ? Moi, je pense que ça sera fortement contre-productif. Vous savez que justement les psaumes, là, on lisait des psaumes, et la langue, elle est considérée comme une épée, hein, par le psalmiste. Hein, ça peut faire mal. Hein. Là, que nous dit 1 Pierre ? Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Étant toujours prêt à vous défendre. Donc à défendre votre foi. Soyez prêts, donc soyez équipés. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Trois fois. Trois fois douceur. Avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc on doit être capable de réfuter ceux qui ne sont pas du même avis que nous. On doit être dans le dialogue avec douceur et respect, c'est-à-dire, en d'autres termes, avec douceur et honneur. Et qu'est-ce que ça veut dire être dans l'honneur ? Et là, je vais en venir à mon dernier point, ça va être un exemple concret. Ça va être l'exemple de Paul à Athènes. Parce que tout mon message avait aussi démarré à partir de Paul à Athènes, qui voit les différents autels devant lui, les autels idolâtres, et son esprit était irrité. Et quelque part, nous, c'est ce qu'on peut voir aussi quand on se balade dans la rue ou ailleurs, d'accord ? On voit une série d'autels idolâtres. Et il y a des choses à préalable à maîtriser pour être dans l'honneur, quelque part, comme Paul l'a fait. Mais il faut connaître un peu la culture dans laquelle on baigne, il faut connaître ses valeurs, il faut connaître aussi les croyances des personnes qui n'ont pas même la foi que nous. Il faut quand même avoir quelques bases. Et il faut avoir donc une culture de l'honneur pour faire preuve de tact et de douceur. Et donc, laissez-moi juste vous donner ce dernier exemple de Paul à Athènes. Donc, à un moment donné, donc il est irrité, il voit tous ces hôtels, et il y a des philosophes qui se mirent à l'aborder, et ils lui dirent « Que veut dire ce discoureur ?» Et ils le menèrent à l'aéropage. Donc c'est un lieu de rassemblement citoyen, même un lieu de jugement, hein, des citoyens, comme une forme de tribunal, hein, d'ailleurs, à l'époque. Et il lui pose la question, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? En tout cas, ça c'est bon. On suscite la curiosité des gens. Raconte-nous un peu ce que tu crois, ça c'est excellent. Et là, moi ça me parle aussi des relations qu'on a avec des personnes autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Et de l'importance de développer, d'approfondir, de creuser des relations avec eux. Parce que souvent, on peut avoir des relations même de voisinage. Bonjour, ouais, ils ont prévu de nouveau la canicule la semaine prochaine. Vous voyez, c'est bon. Mais si vous voulez qu'un jour, ils vous disent, j'aimerais bien que vous me racontiez un peu là votre foi. Et ça veut dire qu'il faut quand même qu'on développe ces relations. Et là, je pense notamment aux maisonnées et même, je veux dire, à nos vies personnelles. De quelque part, parfois, bah, si on veut toucher une personne, parfois, il faut creuser la relation. Un petit trac, parfois, ne suffit pas. Et donc, Paul, il accepte, bien sûr, l'invitation. Et là, voilà, regardez, écoutez comment il procède. Il dit, il se met debout au milieu de l'aréopage, il dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement pécheurs, extrêmement idolâtres, extrêmement hideux, extrêmement tout ce que vous voulez, pas du tout, extrêmement religieux. Je vous trouve tous extrêmement religieux. » Donc, il relève une caractéristique, plutôt un besoin des hommes créés à l'image de Dieu, qui est propre donc à tous. Vous êtes tous extrêmement religieux. Il aurait pu dire, vous êtes tous extrêmement idolâtres. Il ne l'a pas fait. Et là, ensuite, il continue en disant que Dieu a voulu que chaque homme cherche le Seigneur. Et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Donc quelque part, j'ai envie de dire, ils sont presque dans le plan de Dieu parce que Dieu veut que chaque homme cherche. Donc quand vous avez des personnes de votre entourage qui sont en recherche, même comme c'est aussi mon cas, même s'ils sont dans le New Age, dans d'autres trucs, mais qui sont en recherche, on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Moi, je le vois aussi. Je veux le voir à moitié plein. Ils sont en recherche. Ça, c'est déjà bon. Ils tâtonnent. Et vous allez voir que souvent, les personnes qui n'ont pas encore connu Dieu, ils tâtonnent. Ça, c'est un peu instable. Ça va de gauche à droite. Ils recherchent un peu dans tous les sens. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai vécu. Enfin, au niveau de mon entourage. Et là, il dit, donc, Dieu veut que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Waouh ! Dieu, il s'adresse à des gens qui sont dans l'idolâtrie. Dieu n'est pas loin de toi. Et ça, je trouve déjà extraordinaire. Et je me souviens un jour de Pierre-Daniel Martin qui avait dit à quelqu'un qu'il était loin du Seigneur. Il lui a pas dit « Oh, qu'est-ce que t'es loin du Seigneur, repends-toi. » Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. C'est une autre perspective. Ça veut dire, c'est pareil. Approche-toi du Seigneur. Et cette personne m'a dit « Waouh !» Cette personne m'a dit, qui a reçu cette parole, m'a dit « Waouh, mais s'il m'a dit « Approche-toi de Jésus », c'est que je ne suis finalement pas aussi loin de ça que cela de lui. » Et ça a encouragé la personne. Et d'ailleurs, il n'est pas loin de nous. Et ensuite, il dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement, l'être. » C'est notre verset de l'année, ça va être notre thématique de l'année, l'établissement de Daniel, le mouvement, le sport, aussi en vue des Jeux Olympiques 2024. Donc déjà, Paul précise que le fait de chercher Dieu procède de sa volonté. Tous ces élans de recherche, c'est bon. Ensuite, donc, il déclare que le seul vrai Dieu n'est pas loin d'eux, encourageant. Et ensuite, il va plus loin en disant ainsi donc, ah pardon, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Étant donc ainsi de la race de Dieu. Il s'adresse à ces gens et dit, nous, il s'inclut, nous sommes de la race de Dieu. Pour moi, j'appellerais ça la culture de l'honneur. On est tous, quelles que soient nos croyances, de la race divine. Et ça, ça met aussi en valeur la, c'est le cas de le dire, la valeur de l'être humain, la dignité de l'être humain. Et c'est marrant parce qu'il aurait pu dire, contenter de dire, mais vous savez, vous êtes créé à l'image de Dieu. Mais il va citer un poète grec, crétois, qui s'appelle Épiménide, et donc, c'est-à-dire qu'il s'appuyait sur la littérature grecque, donc il connaissait un peu. Il s'est appuyé sur leur littérature pour donner une vérité divine. Et ça montre aussi que dans les différentes croyances et littératures, il y a des traces de Dieu, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, soyons vigilants quand on rejette tout comme ça d'un bloc. Attention, attention. Et donc, c'est important pour nous de connaître des valeurs centrales de notre culture pour pouvoir prendre appui dessus pour entrer dans le dialogue. Et en même temps, ça montre aussi que Paul, il s'est intéressé à cette littérature, à cette culture. Là aussi, on est dans l'honneur quand on s'intéresse à la culture de notre entourage. Donc, il ne s'agit pas de tout balayer, mais déjà de... Ça, c'est la stratégie de Paul. Premier point, je précise un peu ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Et il ne va bien sûr pas s'arrêter là. Et il va aller plus loin en disant, ben, quand je me suis un peu promené, là, parcourant votre ville, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Là, il entre un peu dans le vif du sujet. Et il va ensuite développer des phrases négatives. Donc là, maintenant, il va peu à peu entrer dans l'annonce de l'évangile et il va, avec tact et douceur, il va... réfuter, il va reprendre, il va corriger des choses erronées. Et il dit, au verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute autre chose. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et ainsi de suite. » Et ensuite, il va annoncer l'évangile. C'est-à-dire, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde, et là il y va, hein, c'est franc, hein, où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Là, il parle de justice, et c'est clair que attention aussi, il ne faut pas tomber dans le travers, l'autre travers, dans un autre extrême. C'est à force de vouloir trop trouver des points qui assemblent, de diluer le message de l'évangile. Ça, parfois, c'est ce qu'on trouve. Et le mot repentance, je discutais encore dernièrement avec quelqu'un qui dit, mais on ne l'entend pas trop souvent ce mot-là. C'est une réalité. Prêcher la repentance, la justice selon Dieu par Jésus-Christ, et là... Il parle de résurrection et là, ben là, c'est le tollé parce que la philosophie grecque ne croyait pas, hein, dans la résurrection physique, mais d'ailleurs à l'image de notre société aussi marquée par le matérialisme et l'athéisme. Et donc, là, Paul se retira d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Areopagite, responsable, et encore d'autres. Et là, il a subi la moquerie. Il y a quelques-uns qui sont convertis. Et alors, on pourrait dire échec. Ou... Moi, en tout cas, la chose que je me dis, c'est qu'il y a eu des fruits parce qu'il y a des personnes qui ont été touchées et ça peut être des personnes clés. C'est à l'image de Mathurin Cordier qui a investi dans un petit garçon. Il n'en avait peut-être pas des milliers des élèves, mais un petit garçon qui s'appelait Jean Calvin. Et quelque part, ça valait le coup, non? Donc parfois aussi, simplement, il y a des personnes clés qui sont touchées, qui ensuite, elles, vont répondre à l'évangile. En tout cas, voilà, juste pour conclure, soyons vraiment une église d'adoration, d'intercession, une église d'action, mais aussi une église de persuasion. Et je crois que cette dimension, il faut un peu la retrouver, la travailler un peu. Et là, ce que je me suis contenté de faire, simplement aujourd'hui, oui, je suis resté un peu général, mais je voulais juste poser quelques fondements de la parole. Mais mon objectif personnel, ça serait qu'un jour, je puisse juste vous donner quelques points de repère par rapport à ces croyances qui nous entourent, par exemple comme le Nouvel Âge, le New Age, vous donner juste quelques points et vous dire un peu comment on peut aussi entrer dans le dialogue, dans l'argumentation avec des personnes qui sont dedans et qui peut-être un jour vont être touchées suite à votre prière et qui vont vous poser des questions. Qu'est-ce que vous allez répondre? Imaginez-vous une personne qui vient à la fin du culte vous voir. Waouh! Oh, mes chakras, ils ont vraiment été touchés par votre culte. Okay. Posez-vous cette question et ça peut arriver. Qu'est-ce que vous. Oh, c'est renversé. Et on veut pas de chakra ici, hein, on est d'accord. Hein.
Ok, bah.
Voilà.
Continue.
Voilà. C'est ça. Voilà, on a besoin de ce pilier. Vous voyez, aucun pilier ne doit manquer, le pilier de l'action et le pilier de la persuasion. Mais sincèrement, si quelqu'un vient et dit, ben voilà. Moi, je suis dans une famille musulmane. Ben, Luc m'a dit qu'au niveau de RNC, il y a une personne qui allait parler de l'islam. Donc, on pourra. Est-ce que c'est ouvert, sera ouvert à tous, je ne sais plus, par Zoom. Donc, si vous êtes intéressé, on pourra vous communiquer la date. Et là, voilà, il y aura un enseignement par rapport à l'islam. Moi, j'aimerais bien le faire un jour par rapport au Nouvel Âge, le faire aussi par rapport. Au judaïsme aussi, c'est Huguette, hein. Tu nous parlais aussi de ces personnes dans la rue qui évangélisent le peuple juif à Paris. Mais il faut aussi avoir un peu, je pense, il faut avoir ce pilier aussi de la persuasion. On n'y va pas comme ça. Et il faut un minimum d'équipement. Voilà. Et aussi, comment répondre aussi à l'athéisme. Donc, là aussi, on est dedans. Mais ne me comprenez pas travers non plus. Je ne suis pas là à dire... Voilà, maintenant on rentre dans un christianisme intellectuel, voilà, rentrée scolaire, voilà, il faut remplir notre cerveau de stratégie et tout ça, de stratégie de pensée. Non. Voilà. merci, vous l'avez compris. Donc, mais un minimum d'équipement. Voilà. Juste prier après, ça va au niveau timing, je fais une courte prière. Oui. Je te remercie, Père, pour ta parole. Merci pour les héros de la foi qui nous ont précédés et qui nous ont aussi frayé le chemin, qui nous ont montré aussi le chemin à suivre. Et Père, ma parole, c'est que nous puissions être vraiment une église, comme je l'ai dit avant, une église déjà premièrement d'adorateurs, une église d'intercesseurs, parce que c'est aussi dans la prière que ça se fait. Il y a bien sûr la parole, l'argumentation, la persuasion, mais il y a aussi l'intercession qui doit être derrière. Ça, c'est crucial. Église d'adoration, d'intercession. Une église d'action aussi, qu'on puisse être sensible à l'Esprit Saint et agir, prier pour les personnes. Oser prier pour les personnes. Et aussi une église de persuasion. Oui, qu'on puisse ouvrir notre bouche, ne pas se taire, ouvrir notre bouche. Et aussi en étant inspiré par l'Esprit. Mais en même temps aussi, être équipé. Je crois que ça va de pair aussi. Et qu'on puisse ensuite porter de bons fruits pour cette moisson finale. Au nom de Jésus-Christ. Amen.